Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, la reprise en main de Russie Unie par son fondateur, Vladimir Poutine, correspondance de Moscou, de Jean-Didier Revoin. Hashtag nous toutes, deuxième marche en France pour que cesse et que soit mieux encadré par la loi les violences faites aux femmes. Nous nous attarderons avec Diane Berger sur la notion de suicide forcé. Au lendemain d'une nouvelle mobilisation citoyenne en Algérie, commentaire de notre confrère du monde diplomatique et chroniqueur au quotidien d'Oran, Akram Belkaïd, sur la campagne des 5 candidats à la présidentielle, le titre de son éditorial, le quintet des histrions. Quand une expédition en Arctique met en danger Mike Horn et son compère Borg Ausland en raison du réchauffement climatique. Et puis la bulle écho de ce samedi, Marie Viennot nous entretient du plan d'urgence pour l'hôpital annoncé cette semaine par le gouvernement. Au cœur du contrat social depuis toujours, la confiance est une des pierres de taille de tout édifice politique et le monolithe Russie Unie n'échappe pas à cette règle d'airain et le parti présidentiel perd de l'altitude et cela ne date pas d'hier. La réforme des retraites, délicate à mener sous toutes les latitudes, la réforme des retraites de Vladimir Poutine ne passe pas et de nombreux hiérarques du parti qui tient son congrès annuel ce samedi à Moscou ont pris leur distance, ce qui n'aura pas manqué d'alimenter la colère du président autoproclamé mais tout-puissant Vladimir Poutine. C'est une correspondance de Moscou de Jean-Didier Revoin.
Rapprocher Russie Unie de la population, tel est l'objectif que se sont fixés les cadres du premier parti de Russie. S'il reste majoritaire, le parti qui soutient Vladimir Poutine connaît un passage à vide depuis quelques années et perd des électeurs. Les scandales de corruption, les jeux de chaises musicales à la tête de certaines régions russes et surtout l'éviction de très nombreux candidats de l'opposition des dernières élections locales pour des raisons administratives ont créé une certaine défiance à son égard parmi la population. Le congrès d'aujourd'hui a donc pour ambition de remettre le parti en ordre de marche en vue des prochaines élections législative de 2021 et selon le secrétaire général du parti Andrei Turchak, d'obtenir la majorité absolue. Pour y arriver, ses membres se pencheront sur le renouvellement des instances dirigeantes et la nomination de nouvelles personnalités politiques susceptibles d'apporter un coup de jeune au parti dans le but de se rapprocher de la population. Autant d'objectifs qui répondent aux résultats d'un sondage récent selon lequel 18% des personnes sondées réclament une mise à jour du personnel politique, 23% un rajeunissement du parti et 43% un parti plus proche des préoccupations de la population. Enfin, Boris Gryzlov, président du Haut Conseil du parti, a annoncé que le cœur du travail électoral consisterait à se concentrer sur les cadres du parti plutôt que sur les spécialistes chargés de l'organisation de la campagne. Quant à la définition du programme, elle reste pour l'heure confidentielle.
Il y a sans doute un problème, mais il n'est pas à l'ordre du jour de l'administration présidentielle. Nous ne nous occupons pas de telles questions, déclare hier Dmitri Peskov, porte-parole du gouvernement, suite à un courrier de famille de victimes de féminicide adressé au Kremlin. Rappelons sans tarder que la Russie a largement décriminalisé en 2017 les violences familiales et conjugales, un véritable fléau. Un fléau sans frontières. Avec ce samedi en France, la concrétisation de nombreuses actions et mobilisations, deuxième marche, à l'initiative du collectif hashtag nous toutes dans de nombreuses villes à deux jours d'un Grenelle. Les violences psychologiques vont être inscrites, semblerait-il, dans la loi afin d'être mieux repérées et condamnées. Et le suicide forcé pourrait être reconnu par le code pénal. Bonjour Diane Berger.
Bonjour.
Diane, cette notion de suicide forcé mérite de votre part quelques précisions.
Le suicide forcé, c'est en quelque sorte l'aboutissement de l'emprise psychologique d'un conjoint violent sur sa partenaire. Le responsable n'oblige pas littéralement sa partenaire à se tuer, mais les circonstances, le harcèlement, les violences atteignent un degré tel que la victime choisit de se donner la mort. Pour l'instant, ce cas de figure n'est pas compté dans les chiffres des féminicides, n'y sont recensés que les meurtres et les assassinats, mais des experts ont calculé dans le cadre du Grenelle des violences conjugales que le nombre de ces suicides forcés pourrait tourner autour des 200 femmes en 2018, une situation que regrette la juriste et féministe Yael Mellul. Elle a co-dirigé le groupe de réflexion sur les violences psychologiques au sein du Grenelle, ce qu'elle propose donc ajouter à l'article du code pénal relatif au harcèlement moral par conjoint une circonstance aggravante en cas de suicide ou de tentative.
Diane, à quel changement concrètement s'attendre ?
Si une femme se donne la mort et que ses proches soupçonnent son conjoint d'en être responsable, ils pourront déposer plainte et demander l'ouverture d'une enquête sur les causes exactes du suicide. Les preuves dans ce cas sont très difficiles à rassembler, mais s'il est prouvé que c'est bien le harcèlement du conjoint qui a causé le drame, il serait alors jugé devant une cour d'assises et il pourrait risquer jusqu'à 20 ans de prison, comme pour les violences volontaires entraînant directement la mort.
Merci à vous, Diane Berger. Au lendemain d'une nouvelle mobilisation du Irak en Algérie, la presse souligne la constance du mouvement, mais aussi celle des prétendants à la succession d'Abdelaziz Bouteflika. Bonjour Akram Belkaïd.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au Quotidien d'Oran. Votre dernière livraison est titrée, je le disais en titre, justement, le quintet des histrions, quintet celui-là même des cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre. Histrions, Akram Belkaïd, on les a déjà enviés dans l'histoire, les histrions.
Effectivement, ça, on a cinq candidats dont l'un pourra éventuellement être président. On a eu ce scénario dans d'autres pays, je pense notamment à l'Italie récemment. Et effectivement, ça en dit long sur la situation politique actuelle en Algérie.
Alors, lors de cette campagne, vous avez multiplié les observations et vous relevez dans ce dernier éditorial leur fait de propagande et leur clientélisme avec entre autres hameçons la religion et surtout l'électorat islamo-conservateur.
Oui, dans une ambiance de vraiment de contestation. Le Hirak en est à son 40e week-end d'affilée, enfin 40e semaine d'affilée de protestation. Les gens disent non aux élections, sont vraiment contre. Et puis on a ces candidats qui, vaille que vaille, essayent d'absolument imposer leur campagne et cherchent par tous les moyens de se trouver des partisans en flattant notamment une partie de l'Algérie qui est peut-être moins encline à manifester, qui en tous les cas est moins, je dirais, irrédentiste.
Mais alors cet électorat islamo-conservateur, on peut oser le dimensionner ?
Alors, vous avez par exemple un candidat qui s'est proclamé, enfin qui n'arrête pas de répéter qu'il a toujours été islamiste, c'est Monsieur Ben Grina. Il s'est fait photographier en train de prier sur un trottoir. Donc là, les clins d'œil sont pas simplement appuyés, c'est presque grotesque. Et le plus intéressant à noter, c'est que une partie de ceux qui se réclament de la mouvance islamiste s'en sont offusqués en disant mais attendez, ça prend pas. Donc effectivement, c'est très difficile de savoir qui ce genre de manœuvre, je dirais, électoraliste peut convaincre. Par contre, les candidats essayent aussi de se rapprocher des confréries qui n'ont jamais brillé par leur, je dirais, par leur opposition au régime en place. Je mets ça au pluriel, les confréries religieuses qui déjà à l'époque coloniale étaient parfois un relais de la parole coloniale et qui aujourd'hui accueillent les candidats. Donc c'est des moments, je dirais, de calme pour des candidats qui, lorsqu'ils sont dans la rue, lorsqu'ils essayent de faire des meetings, sont conspués par une bonne partie des Algériens.
Dans le cadre de ce Irak et des turbulences que croise l'Algérie, est-ce que la religion peut être une valeur refuge, comme c'est traditionnellement le cas dans les pays qui vivent des blessures et des passes compliquées ?
Non, parce que depuis le début des manifestations, depuis le mois de février dernier, les Algériens ont clairement dépassé les fractures des années 90. Les islamistes sont présents dans les manifestations dans le Hirak, sans leur mot d'ordre habituel, et ça c'est important à noter, c'est-à-dire que, et même les partis islamistes autorisés boycottent officiellement cette élection, donc le recours à la religion traduit, selon moi aussi, la vacuité du programme des concernés. C'est-à-dire que quand on n'a rien à proposer de sérieux aux Algériens, lorsqu'on est contesté par une partie de la population qui ne veut pas des élections du 12 décembre, eh bien on ressort les vieilles ficelles. Alors pour l'un, c'est dire du mal de la France, et pour l'autre, c'est d'en appeler à la religiosité des Algériens.
Bien, merci infiniment. Merci Akram Belkaïd d'avoir accepté notre invitation, journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au Quotidien d'Oran. Mike Horn, prisonnier des glaces, l'aventurier sud-africain, son coéquipier, le Norvégien Børge Ousland, sont partis explorer les mystères de l'océan Arctique. Mais leur expédition rencontre des difficultés qui nous ramènent à la dégradation de l'état de la planète. Bonjour Alicia Miami.
Bonjour.
Alicia, comment deux explorateurs aguerris se sont-ils retrouvés dans une telle situation ?
Eh bien, d'après Annika Horn, la fille de l'explorateur, c'est le réchauffement climatique qui serait la cause des complications rencontrées par l'expédition. Les deux hommes ont déjà réalisé cette traversée de l'océan Arctique il y a 10 ans, mais depuis la fonte des glaces s'est accélérée, ce qui complique considérablement le périple.
que Mike et Borghi ont réalisé très tôt, c'est que les conditions de glace n'étaient pas du tout celles qu'ils attendaient. Enfin, la glace est beaucoup plus fine qu'elle était à l'époque, 10 ans en arrière quand ils avaient fait leur première expédition ensemble. Pour vous expliquer très brièvement, la température de l'eau augmente de quelques petits degrés et ensuite c'est la cause de la glace d'être beaucoup plus fine. Donc elle est susceptible de se casser. Donc Mike et Borghi doivent faire très attention à ces changements-là dus au réchauffement et au changement dans le climat qui sont en train de leur causer le plus grand nombre d'obstacles, heureusement. Il y a des ouvertures, des étendues d'eau ouvertes et ça pose énormément d'obstacles et de risques.
Les explorateurs souffrent de ces conditions inédites pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. Selon Annika Horn, son père souffrirait déjà de gelures aux orteils et au nez. Lui et son compagnon de route se déplacent à ski et ils sont parfois obligés de faire des détours de plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver un terrain praticable là où la glace se transforme peu à peu en eau. Ces imprévus les retardent, mais surtout ils prolongent une expédition pour laquelle les quantités de nourriture embarquées sont limitées. Au-delà du froid, ce qui inquiète Annika Horn, c'est que les vivres pourraient bientôt manquer aux deux aventuriers.
Merci à vous, Alicia Miami.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et aujourd'hui, dans la bulle économique, Marie Viennot revient sur le plan d'urgence pour l'hôpital annoncé cette semaine par le gouvernement.
On doit chaque année trouver de nouvelles marges d'efficience, jusqu'à un certain point, bien sûr.
Ce témoignage d'une directrice d'hôpital, je l'ai recueilli il y a 5 ans. Vous le retrouverez en intégralité à la page de la bulle économique. Il y a 5 ans déjà, cette directrice disait atteindre parfois les limites des économies à faire chaque année. Or, depuis, les plans d'économie pour l'hôpital n'ont pas cessé. Ils ont même été amplifiés sous Hollande. Pourtant, chaque année, le budget de l'hôpital augmente. En 2020, on prévoit 80 milliards d'euros contre 76 en 2015. Cela peut sembler donc paradoxal. Pourquoi l'hôpital doit-il faire des économies alors que son budget augmente? La réponse tient en 3 mots, évolution tendancielle des dépenses. Pour un hôpital, les 2/3 des dépenses, c'est le personnel. Or, il y a des grilles de salaire, des augmentations automatiques, il y a l'inflation aussi, si bien qu'à activité constante, on estime que les dépenses de l'hôpital augmentent de 4% d'une année sur l'autre. C'est là qu'il va falloir que je vous explique ce qu'est l'ONDAM. L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Il est voté par les parlementaires lors de l'examen du projet de loi pour la Sécu, le PLFSS. Cet ONDAM, c'est un legs du plan Juppé de 1996. Souvenez-vous, celui qui avait mis une partie de la France durablement dans la rue. Cet ONDAM a toujours posé problème aux soignants car il n'a jamais été un outil de pilotage sanitaire, mais budgétaire. La réduction des déficits étant un objectif permanent et transpartisan, c'est sciemment que l'ONDAM, depuis sa création, est toujours 2 fois inférieur à l'évolution tendancielle des dépenses. En gros, il est entre 2 et 2,5% par an, alors que l'évolution tendancielle, c'est donc 4%. On comprend dans ce cadre qu'il y a chaque année des économies à faire. Aurait-on atteint une limite? C'est ce que disent les soignants mobilisés depuis 8 mois et c'est la question que pose aussi un rapport parlementaire sur l'ONDAM rendu en octobre dernier par le Sénat et qui se demande si on n'a pas atteint les limites d'un pilotage budgétaire à courte vue. Pour autant, cette logique ne change pas avec le plan d'urgence du gouvernement. L'ONDAM pour l'hôpital passe de 2,1 à 2,45%. On reste donc loin des 4% du tendanciel et les hôpitaux à la diète pour respecter leur ONDAM. Alors comment expliquer que le Premier ministre dise consacrer à l'hôpital des moyens
considérables?
Des moyens considérables.
Des moyens considérables.
Si on additionne toutes les mesures présentées cette semaine, on atteint la somme de 2,8 milliards d'euros sur 3 ans. 1,5 milliard pour les primes pour le personnel, 800 millions pour les intérêts des 10 milliards de dettes reprises et 450 millions d'investissements. 2,8 milliards sur 3 ans, 1 milliard par an, donc en arrondissant, est-ce considérable? Pour la fédération hospitalière, ça l'est, car c'est de l'argent en plus et qu'après 15 années de tour de vis, c'est une réelle inflexion. Mais attention, accrochez-vous, il y a un tour de passe-passe. Chaque année, l'État accorde des allègements de cotisations sociales aux entreprises dans l'idée de favoriser la création d'emplois. C'est de l'argent en moins dans les caisses de la sécurité sociale et légalement, l'État doit le compenser. Il ne le fait jamais totalement. Mais pour le projet de budget de la Sécu de l'an prochain, 2020, on bat un record. L'État a décidé de ne pas compenser 3,9 milliards d'euros à la sécurité sociale. Autrement dit, ce que l'État donne d'une main aux hôpitaux, c'est une petite partie seulement de l'argent qu'il doit au budget de la Sécu. Un peu comme si je devais 4000 euros à votre foyer et que je vous semblais généreuse en octroyant 1000 euros à l'un de ses membres. C'est toujours mieux que rien, mais avouez que cette acrobatie budgétaire, si elle n'est pas très visible, doit au moins être considérée.
Merci à vous, Marie Viennot. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Les bords de la Méditerranée sont en vigilance orange en raison de pluies, inondations, orages, vents forts et crus. Ailleurs, le temps sera couvert et souvent faiblement pluvieux. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue à la technique, Jordan Fuentes.